Bonsoir à tous. On est là pour la 20e heure. On approche de la fin. Dans bien des sens, hein. La semaine prochaine, Dieu voulant, on parlera des derniers temps avant d'aborder pendant 2 semaines l'Apocalypse. Et on va voir le rapport entre les tremblements de terre, la maladie de la grippe de Mexico, le porc, la grippe porcine, avec les prédictions de la Bible. On est peut-être plus proche qu'on ne croit. Donc, une série très importante, on va commencer la semaine prochaine. Mais cette semaine, on se réjouis de terminer les lettres du Nouveau Testament. Il y a combien de livres dans le Nouveau Testament ? À la fin, on va finir par savoir. Ouais, 27 et 39 dans l'Ancien Testament, pour un total de 66. C'est dans Ésaïe, on sait que c'est la même proportion, 39 et 27 pour deux grands passages de Ésaïe. On a vu les épîtres de Paul. Il y en avait combien, les lettres écrites par Paul? Vous avez le droit de répondre 2 chiffres, mais pas plus.
13,
voilà, 13 officiellement, et peut-être une 14e qui serait de...
C'est pour ça que 13, c'est un chiffre pour le bonheur.
Voilà. C'est un chiffre Paul Bonheur. Voilà. Donc, il y avait les évangiles et les actes, et à la fin, il y a l'Apocalypse. Donc, au total, on va voir 8 lettres ce soir. On va parler de la lettre aux Hébreux, de la lettre de Jacques, les 2 lettres de Pierre, 1 et 2. Des 3 lettres de Jean, 1, 2, 3, et puis de la lettre de Jude. Donc, d'abord la lettre aux Hébreux. Des fois, on appelle ces épîtres, les épîtres hébraïco-chrétiennes, pour incorporer hébreu, et ces lettres s'adressent ont été écrites par des juifs, à des chrétiens. Donc, pour commencer, la lettre aux Hébreux. Alors, je disais que certains pensent que peut-être elle a été écrite par Paul, et c'est vrai qu'on voit le nom de Timothée est mentionné. Il y a une logique très, très rigoureuse qui ressemble beaucoup à ce que Paul nous a appris à lire. Plutôt la façon dont il s'exprimait dans le livre de Romains notamment. Ces 8 épîtres dont je viens de parler avec Hébreux, en fait, elles ont une particularité, elles ne s'adressent pas à une église, comme on l'avait vu dans le cas des lettres de Paul aux Colossiens, ou à l'église de Philippe, ou à l'église de Corinthe. Ça s'adresse à des chrétiens, ça met en garde pour certaines choses. La lettre aux Hébreux, c'est avec la lettre de Paul aux Romains peut-être un des grands traités théologiques du Nouveau Testament. Il y a beaucoup de choses qui sont enseignées dans cette lettre. Certains le comparent un peu au livre du Lévitique dans l'Ancien Testament, parce qu'il va nous parler d'une nouvelle prêtrise, il va nous parler d'une nouvelle alliance. Le contexte, c'était qu'à l'époque, il y avait des persécutions qui étaient intervenues. Il y avait l'empereur Claude, il en est question dans Actes 18, et puis Néron. On pense que Cette lettre a été écrite avant l'an 70, l'année repère de la destruction du temple de Jérusalem, et le fait que ce ne soit pas mentionné, ça nous permet de dire que c'était fait avant, d'autant que lorsqu'il a écrit cette lettre, il y avait un service, un sacerdoce qui était encore en fonction au temple. Il disait par exemple dans verset 10, chapitre 10, verset 11, « Tout sacrificateur se tient à son poste chaque jour pour faire son service. » Il décrit ce que les gens pouvaient voir. Et en fait, cette lettre, on pense qu'elle a été écrite pour mettre en garde les Juifs qui, sous la menace, sous la pression des persécutions, étaient prêts à renoncer à leur foi en Christ et à se dire qu'en fait, c'était pas bien grave. Ils allaient dire qu'ils croyaient, qu'ils ne suivaient plus Jésus, et puis au dernier moment, ils pourraient peut-être se repentir et revenir à Christ. Et Paul veut les mettre... l'auteur de la lettre, des fois je vais dire Paul, mais on n'est pas sûr que ce soit lui, parce que c'est d'habitude, il signait son nom à la fin des lettres. Il disait « Paul vous dit bonjour, et tel un tel qui a écrit vous serre la main aussi ». Là, Paul ne se mentionne pas. Et c'est pour ça que certains ont pensé que c'était peut-être d'autres auteurs comme Apollos ou d'autres, des compagnons de Paul, Barnabas, étaient suggérés aussi. Peu importe, on sait que c'est l'Esprit Saint qui l'a écrit de toute façon. Ils avaient donc déjà perdu Étienne, qui avait été martyrisé, Jacques, en l'an 62. On verra. En étudiant la lettre de Jacques, il y avait plusieurs Jacques, mais c'est pas le même que celui qui a écrit la lettre de Jacques. Celui qui a écrit la lettre de Jacques, c'était le demi-frère de Jésus. Ce Jacques-là, c'était le frère de Jean. Jean et Jacques, les fils de Zébédée, qui a été assassiné en 62. Et donc, il y avait une pression pour ces Juifs chrétiens de renoncer à leur nouvelle foi. Et Paul veut... l'auteur de la lettre aux Hébreux veut absolument montrer l'importance, la prééminence de Christ et que ça serait de la folie que de vouloir revenir en arrière. Et il y a un mot clé qui est le mot qui est traduit par meilleur, mieux, supérieur, plus excellent. Et ça, c'est pour souligner la supériorité de Christ. On a vu il n'y a pas longtemps, on a étudié une lettre. Qui parle aussi de la supériorité de Christ, de sa prééminence. Vous vous souvenez de quelle lettre il s'agissait ?
Colossiens.
Voilà, le dimanche, on a étudié la lettre de Paul aux Colossiens. Et là, il montrait aussi que Christ était supérieur à tout ce qu'on pouvait imaginer, qu'il était même l'agent de la création, qu'il était le créateur du monde, qu'il était supérieur à tout. Dans la Trinité, avec le Père et le Saint-Esprit. Mais là, l'auteur montre qu'il était supérieur d'abord aux anges. Les anges tenaient une part importante dans la foi judaïque. Ça, c'est à partir du... On peut même lire le tout début de cette lettre. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Et là aussi, il montre déjà la suprématie de Jésus, par qui les mondes ont été faits, par le Père, qu'il a utilisé comme agent de création. Ce Fils est le rayonnement de sa gloire, l'expression de son être, et c'est lui qui est venu nous parler. Après que Dieu nous ait parlé par les prophètes, par la parole de Dieu, l'Ancien Testament, finalement, c'est le Fils de Dieu lui-même qui est venu. Et puis, il montre d'abord qu'il est supérieur aux anges, il dit en fait qu'à aucun ange Dieu n'a dit « Ton trône, ô Dieu, est éternel », mais il l'a dit au Fils, ça c'est le verset 8, un verset qui montre que Dieu le Père appelle Jésus Dieu lui-même. Il a la supériorité donc par rapport aux anges. Ensuite, un des grands personnages de la foi judaïque, c'était bien sûr Moïse. Et là aussi, à partir du chapitre 3, il montre que Jésus-Christ est supérieur à Moïse. Et là, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais il y a tout un raisonnement qui est fait pour montrer qu'il était plus grand que leur plus grand prophète Moïse, et que ce serait de la folie que de revenir en arrière et de laisser tomber Jésus. Et puis, il parle aussi de Josué. Il était supérieur à Josué, qui était le successeur de Moïse à la tête du peuple d'Israël. Il montre qu'il est supérieur à Aaron. Il parle de la prêtrise de l'Ancien Testament. Il fait une référence à un roi qui s'appelait Melchizedek. Melchizedek, dont il est question dans les psaumes, dans la Genèse 14-18. Et ce Melchizedek, c'est un personnage un peu mystérieux, qui n'a pas de généalogie, et qui se fait verser la dîme par Abraham. Et l'auteur a ce raisonnement un peu surprenant au départ, c'est qu'en fait, comme Abraham est l'ancêtre de Lévi, et qui était la tribu des prêtres, il dit qu'en fait, Lévi, lorsque Abraham a donné la dîme à Melchizedek, c'était dans l'ADN, dans la descendance à venir de Abraham, il y avait Lévi. Donc, en quelque sorte, Lévi a payé le tribut à ce roi Melchizedek. Et il utilise ça comme raisonnement pour dire que on paye la dîme à celui qui est supérieur. Et donc, le fait que Lévi, lorsqu'il était encore que des cellules d'ADN dans le corps d'Abraham, il a payé la dîme à quelqu'un qui lui était supérieur. Donc l'ordre, la prêtrise selon Melchizedek est supérieur à la prêtrise de Lévi. Et ce roi, Melchizedek, c'était donc un type, une préfiguration de Christ. Il y a aussi un psaume dans lequel il est dit « Tu es roi selon l'ordre, tu es sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchizedek ». Ça, c'est au verset 6 du chapitre 5. Donc, il utilise des raisonnements très très puissants pour les Hébreux, pour les Juifs qui lisaient ça. Et il continue donc à dire qu'il est supérieur à Aaron, à l'ancienne alliance. Ça, c'est au chapitre 7 et 8. Et il va parler du fait qu'il fallait... Il reprend encore une fois le témoignage qui est rendu à Jésus de dire qu'il est sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchizedek, ça au verset 7, 17. Il montre que Jésus est le garant, verset 22 du chapitre 7, d'une meilleure alliance. Et il a aussi un raisonnement puissant. Il dit que les sacrificateurs jusqu'à présent étaient mortels, donc ils n'étaient pas permanents. Mais, verset 24, lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce non transmissible. La prêtrise qu'il a, c'est une prêtrise éternelle. Et verset 25, c'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. C'est pas quelqu'un qui change tous les 5 ans ou les 10 ans ou les 20 ans. C'est un souverain sacrificateur qui nous convient. Il est saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Donc il continue vraiment de faire une argumentation très, très serrée, très forte, pour montrer que Jésus-Christ, une fois qu'on l'a, on ne veut pas le quitter, on ne veut pas retourner à quelque chose d'autre. Et ça me fait penser toujours à ce grand verset, je crois que c'est dans, si je ne me trompe pas, je vais vérifier, je crois que c'est Jean 6, 68. Non. Lorsque des disciples se retiraient de Jésus parce qu'ils trouvaient qu'il demandait des choses scandaleuses, ils disaient « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Ils pensaient que c'était de la folie, il y en avait qui cessaient de le suivre. Et Jésus, verset 67 du chapitre 6 de Jean, dit donc aux 12 « Et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? Ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. » Cette idée que, quelles que soient nos circonstances, la meilleure façon de vivre, c'est de suivre Christ. Qu'est-ce qu'on ferait d'autre si on ne suivait pas Christ? Est-ce qu'on décide de devenir un gangster, de chercher la richesse, de chercher les plaisirs à tout prix, qu'est-ce qui peut remplacer? Et c'est un peu le même genre d'argumentation que l'auteur fait auprès des Juifs qui sont tentés de revenir en arrière. Il dit, mais ce serait de la folie que de revenir à un sacrificateur qui n'est pas aussi parfait, à une alliance qui ne tient pas la route. Et au chapitre 9 et 10, il va indiquer qu'en fait, le sacrifice de Jésus, il est fait une fois pour toutes. Et il explique qu'il n'est pas entré dans, comme le souverain sacrificateur, dans le temple, dans le Saint des Saints chaque année pour essayer d'apaiser la colère de Dieu. Lui, il est apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et verset 12 du chapitre 9, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des boucs et des taureaux est la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés, les sanctifie de manière à purifier la chair, combien plus le sang du Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert par lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant? Cette perfection du sacrifice de Dieu qui fait aussi que on n'est pas d'accord avec le principe de la messe des catholiques qui est censée reproduire, reconstituer un sacrifice où le pain et le vin redeviennent le sang et la chair de Christ. Et à chaque fois pour les catholiques, la messe, c'est un sacrifice qui est répété. Et ce n'est pas répété symboliquement. Pour eux, le pain et le vin deviennent encore le vrai sang et le vrai chair de Jésus. Et quand on voit la lettre aux Hébreux, ça ne peut pas tenir la route, leur histoire. C'est un des passages clés pour expliquer que ce qu'ils appellent la transsubstantiation n'est pas biblique. Donc cette lettre est vraiment très très forte dans sa logique pour montrer la supériorité de Christ sur toutes ces choses auxquelles s'attachaient les Juifs. Et aujourd'hui encore, quand on parle avec les Juifs, on peut utiliser les mêmes arguments, c'est une très bonne lettre aujourd'hui encore pour parler avec si vous avez un ami juif qui est en recherche et non pas coincé dans sa religiosité. c'est très puissant comme logique et comme épître pour leur montrer, leur ouvrir les yeux. La grande deuxième partie de la lettre aux Hébreux, donc il y a cette partie doctrinale, et ça rappelle un peu encore une fois la façon dont procédait Paul en expliquant des vérités à croire et puis une conduite à adopter. Il va passer à des exhortations pratiques à partir du chapitre 10. Et puis là, il va parler des héros de la foi. C'est le grand chapitre des personnes qui ont démontré leur foi par leur vie. Il parle et là encore il faut penser qu'il leur dit n'abandonnez pas ce que vous avez découvert en Christ, et au verset 35 du chapitre 10 il dit n'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir à lui. C'est la troisième fois qu'on retrouve cette citation tirée du livre de Habacuc 2:4. On a vu le juste vivra par la foi, on a parlé de ça en voyant Romains. Dans Romains, on s'attache à comment être juste. Dans Galates, ce verset est cité, on s'attache à voir comment on doit vivre. Et là, dans Hébreux, c'est le passage de la foi. Et il donne une définition de la foi. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, c'est au chapitre 11, verset 1. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte qu'on ne voit pas ne provient pas de ce qui est, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Et puis il se commence à passer en revue les grands héros de la foi, les grands personnages de la Bible qui ont exercé leur foi. Cette définition de la foi du chapitre 11, verset 1, c'est important. C'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est intéressant, j'ai pas noté d'autres versions, d'autres textes. Mais l'assurance des choses, c'est pas une vague espérance ou un vague espoir, c'est une assurance de quelque chose qu'on ne voit pas, mais on sait que ça existe et que ça va arriver. Et c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Il y a des choses qui se passent, même si on ne les voit pas, on voit l'effet de la foi. On voit donc comment. L'illustration, par exemple, des ondes qu'on ne voit pas, elles ont un effet, on peut démontrer cet effet, il suffit d'avoir un bon récepteur. Et c'est par la foi qu'on comprend que le monde a été formé par la parole de Dieu. Ce qu'on voit qui est visible, ça vient de choses invisibles, comme la parole de Dieu. C'est ce qui est formidable, et pour moi, c'est la science moderne confirme, fortifie ma foi d'une façon incroyable dans la Bible, parce que la science moderne me dit que cette table, en fait, si on regarde avec des microscopes très puissants, on s'aperçoit en fait que ce sont des atomes, c'est du vide qui tourne sur lui-même, ce sont des particules qui se divisent encore en particules avec du vide. Les couleurs, c'est pas comme on croit qu'on voit et que c'est matériel et que c'est fini, qu'il n'y a pas d'autre explication. C'est là, en fait, la science moderne nous montre qu'on peut encore. On s'aperçoit qu'on plonge de plus en plus dans les ondes, dans la parole de Dieu, dans ce qui n'est pas visible. Mais ce qu'on voit, on voit le résultat, ça provient de ce qui n'est pas visible. Et Une chose fondamentale aussi pour votre vie de chrétien, c'est le verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il leur disait en essence, si vous ne croyez pas en lui, si vous doutez de sa réalité, si vous avez au point d'être prêt à le renier et à revenir à votre ancienne religion pour échapper aux persécutions, vous ne pouvez pas lui plaire. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et en plus savoir qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ça, c'est un verset aussi fondateur pour votre vie de chrétien. Et là, il va prendre des exemples de gens qui ont montré leur foi. C'est ce qu'on appelle des fois la galerie des gens qui ont eu beaucoup de foi. Donc il y a Enoch, Abel, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob. C'est un passage, on n'a pas le temps de le voir. Si vous ne l'avez jamais lu, c'est un passage à lire et à relire. Il montre en fait que tous ces gens ont fait des grandes choses pour Dieu simplement parce qu'ils ont cru à sa parole et à ses promesses. De la même façon, nous aussi, on n'est pas différents. Si on a cette foi, on va lui plaire. On peut savoir qu'il existe. En le cherchant, on va le trouver. Et qu'il va nous récompenser. Ça ne veut pas dire qu'il va nous donner la richesse ici-bas nécessairement. Mais il va nous donner des bonnes choses. Il va nous donner sa communion. Et on va avoir une vie abondante déjà ici et pour l'éternité. Et il reprend donc l'exemple des patriarches, de Abraham, Isaac, Jacob. Il parle de Moïse, des parents de Moïse. Par la foi, Moïse a obéi lorsque Dieu lui avait dit de faire l'aspersion du sang sur les portes pour être protégé, que l'ange exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'était aussi totalement par la foi de croire ce que Dieu lui avait confié, lui avait dit. Les murailles de Jéricho, c'est pareil. La foi de Rahab, la prostituée, elle a accueilli les espions. Et puis verset 32, il dit « Que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait si je passais en revue. » Et puis là, ici, d'autres personnages de la Bible, Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes, qui par la foi ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, etc. Et puis il y a eu... Ces gens ont souffert aussi grandement, d'autres... furent torturés, verset 15, n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure. D'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet, bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés. On pense que ça a été le cas du prophète Ésaïe aux mains du mauvais roi Manassé. Ils furent tués par l'épée, ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Cette expression, c'est que ces gens qui ont une telle foi en Dieu, finalement, le monde n'est pas digne d'eux. Comment vous comprenez ça? Ça veut dire que le monde n'est pas digne de ces gens. C'est vrai que ces gens-là ont fait beaucoup de bien, ont apporté la vérité, le message, et finalement le monde les a rejetés comme ils ont rejeté Dieu. Et le monde ne méritait pas ce genre de caractère, de personnage qui était prêt à se sacrifier pour les aider, pour les aimer. Et donc il utilise cette, cette galerie de portraits d'hommes et de femmes de foi pour nous exhorter au chapitre 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui mène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est un passage, je crois que c'est là-dessus que James a prêché, il me semble. Hein? James Lowen a parlé de ça, non?
C'était Romain.
Ah, c'était Romain 12, c'était pas Hébreux 12, pardon. Nous aussi, donc, nous avons cet exemple. Alors, des fois, les gens pensent ils sont assis dans les gradins et qu'ils nous regardent courir la course. Ce n'est pas nécessairement ce que veut dire la phrase, mais on sait qu'il y a cette nuée de personnes qui ont témoigné de leur foi, de martyrs, et doivent nous servir d'exemple pour ne pas avoir peur de vivre notre foi courageusement en fixant nos yeux sur Jésus. Il est l'auteur de la foi. Il l'amène à la perfection. Une autre façon de dire l'auteur de la foi, il est le premier dans la foi. Et c'est lui qui nous conduit à la perfection, qui nous fait grandir notre foi. Il y a un passage dans Romains 10, 17 qui dit « La foi vient de ce qu'on entend la parole et la parole de Christ ou de Dieu. » Encore une fois, c'est en lisant la parole qu'on va voir que des promesses se réalisent dans nos vies. Ça va nous fortifier de croire à d'autres, nous encourager à croire à d'autres promesses, voir ces nouvelles promesses se réaliser, et ainsi de suite. Un peu comme quand on fait de l'exercice, on a les muscles qui grandissent. La foi, c'est quelque chose qui doit s'exercer, pas quelque chose qu'on reçoit miraculeusement. Des fois, les gens disent « Ah, c'est bien, toi, t'as la foi, moi, je l'ai pas. Passons à autre chose, quoi. » Comme si t'as les yeux bleus ou « Moi, j'ai les yeux bruns. » Mais, et toujours dans ce contexte de dire aux gens qui sont prêts à renoncer à leur foi en Christ, ne faites pas ça, ce serait ridicule, ce serait de la folie. Et là, il vient de prendre justement des exemples de personnages qui étaient respectés par les religieux juifs, tous ces héros de la foi dont ils connaissaient la vie. Il montre en quoi ça doit nous encourager à croire en Christ et à persévérer. Et puis l'auteur termine avec différentes exhortations. Persévérer dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns à leur insu ont logé des anges. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez en prison avec eux, de ceux qui sont maltraités, etc. Donc il y a des choses qui deviennent très pratiques et très, très saintes. Mais ça, c'est une grande lettre au niveau des vérités théologiques et de l'héritage de la foi chrétienne par rapport à l'Ancien Testament et à la foi hébraïque. Il y a 5 grandes recommandations, si vous voulez noter, dans chapitre 2, verset 1 à 4, il dit... Il y a 5 grands avertissements. Donc, ne partez pas à la dérive en négligeant la parole. C'est contre le danger de la négligence. On sait que quand on est en bateau, si on ne fait pas attention, on peut dériver lentement, mais au bout d'un moment, on peut être très loin d'où on veut aller et ça peut devenir très dangereux. Si on néglige la parole, c'est de la même façon un danger de s'éloigner très loin de Dieu. Deuxième avertissement, c'est de ne pas mettre la parole en doute par incrédulité. Ça, c'est le verset, chapitre 3, verset 7, au premier verset du chapitre 1. Hébreux 3, 7 à 4, 1. Il prend encore une fois l'exemple de ceux qui ont mis en doute la parole. Euh, Un autre avertissement se trouve dans Hébreux 5, 11 à 6, 20. C'est de ne pas croître dans notre connaissance de la parole et notre vie chrétienne. Et c'est une façon de, si on néglige, si on reste insensible à la parole, on va rester sans croissance, on va pas grandir. C'est un autre danger. Il faut progresser dans la maturité. C'est vrai que des fois on rencontre des chrétiens qui sont chrétiens depuis 30 ans, mais qui n'ont pas vraiment grandi dans leur foi, qui peut-être vont à l'église, mais c'est quelque chose qu'ils font sans chercher à approfondir ou à grandir. Une façon aussi qui est dangereuse, une autre chose qui est dangereuse, c'est de mépriser la parole. Ça, c'est Hébreux 10, 26 à 31. Et ça, c'est une façon de mépriser la parole, c'est de pécher de façon délibérée. 10, 26 à 31. Ça veut dire... bon, mais je sais que je ne dois pas faire ça, mais je le fais quand même. Dieu me pardonnera. C'est du péché délibéré. C'est un peu comme les enfants qui savent qu'ils ne doivent pas faire quelque chose, qui te regardent dans les yeux et qui le font juste pour te tester. Ça, ce n'est pas quelque chose à faire avec Dieu. C'est un bon père qui nous corrigera si on fait ça. Ne désobéissez pas à la parole par indifférence. Ça, c'est Hébreux 12, 14 à 29. Donc ça, c'est des dangers qui nous guettent tous en tant que chrétiens, pas seulement les Hébreux de l'époque. Donc cinq avertissements qui ont tous relation à la parole. Danger de la négliger, de ne pas la croire, danger de ne pas grandir, danger de la mépriser et danger de refus d'écouter. Par indifférence. Donc, en quelques phrases, hein, c'est un survol très rapide de cet épître qu'on avait étudié il n'y a pas très longtemps, plus en détail. Deuxième lettre que j'aimerais voir, c'est l'épître de Jacques. Jacques, chapitre 1, verset 1. Serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dans la dispersion. Alors le mot dispersion, c'est le mot que vous connaissez peut-être, on l'appelle la diaspora, c'est le mot grec. C'est les premiers chrétiens juifs qui ont été dispersés à cause des persécutions. Cette lettre serait peut-être une des premières lettres du Nouveau Testament, en fait. C'est une lettre assez tôt dans l'histoire du... après Jésus. Donc, l'auteur, c'est le demi-frère, hein, c'est le frère de sa maman, c'était Marie, et le père, c'était Joseph, mais on sait que le père de Jésus, c'était pas Joseph, c'était le Saint-Esprit. Donc, ça fait de lui un demi-frère, qui au début était incrédule. Dans Jean, par exemple, 7, 5, il ne croyait pas que son frère, qui avait toujours tout juste, ça ne doit pas être drôle d'avoir un frère ou une sœur parfaite. Vous qui avez des frères ou des sœurs, vous savez déjà que ce n'est pas facile, mais avec Jésus, c'était difficile de le coincer. Et... il est dit, en effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui, parce qu'il lui disait d'aller, il disait, puisque tu veux faire des miracles, pourquoi tu ne montes pas à Jérusalem et va te montrer. Mais il y avait cette incrédulité au départ. Et puis, après la résurrection, ils sont venus à la foi, et Jacques est devenu un des grands croyants en Jésus. Il est devenu, comme on dit, une colonne de l'église de Jérusalem. C'était un des responsables parmi les apôtres. Il n'était pas, donc, c'est pas le frère de Jean, l'apôtre Jacques, qui a été mis à mort dans, il en est question dans Actes 12, 2. Regardez rapidement. Les minutes sont bonnes. Vers ce temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter et fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit en outre arrêter Pierre. Donc, ce Jacques écrit aux chrétiens juifs et païens aussi, mais essentiellement aux 12 tribus dans la dispersion. Et cette lettre est une lettre très pratique. C'est un peu comme les proverbes de l'Ancien Testament. Et ça nous apprend comment vivre notre foi de façon pratique. Verset 22 du chapitre 1. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Et c'est vrai que si on écoute seulement la parole, on est un peu comme un homme qui a vu son visage dans un miroir et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais par contre, celui qui a plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui persévère non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Hein, si vous êtes pour un gars, vous regardez dans la glace, vous avez la barbe à raser, puis vous faites rien, vous êtes toujours aussi en besoin de changement que si vous n'aviez pas regardé. Et la parole, si on ne la met pas en pratique, ça, elle ne sert à rien. Pratiquer la parole. Il va donner donc beaucoup de sujets pratiques. On sait que, ou on sait ou on ne sait pas, mais Luther n'aimait pas cette épître, il l'appelait l'épître de paille, parce que pour lui elle était en contradiction avec l'épître aux Romains, qui disait que le salut venait par la foi. Et on sait que pour Luther ça avait été complètement révolutionnaire dans sa vie, c'est lui qui avait lancé la réforme avec un changement un retour à la parole, etc. Le fait que Jacques semble insister sur les œuvres. Il pensait que c'était une épître qui valait rien du tout, qui était contraire à ce que Paul enseignait et qu'il avait tellement touché. En fait, c'est pas vrai du tout. On va voir dans les passages sur la foi et les œuvres qu'il n'y a aucune contradiction entre le salut par la foi et la nécessité de voir des œuvres dans nos vies. On peut regarder, mes frères, à partir du verset 14, mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi par mes œuvres je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres sa foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres pour avoir reçu les messagers et les avoir fait partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alors, c'est vrai que verset 24, pour Luther, c'était dur à avaler. Jacques dit, vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seulement. Comment, à votre avis, ça peut être réconcilié avec le fait que Paul lui disait, le salut, c'est par la foi seulement, pas par les œuvres.
C'est à la fois, tu vas vouloir de toi-même agir en conséquence, donc nécessairement, il y aura les œuvres.
Voilà, les œuvres ne vont pas te sauver, mais elles vont être la preuve qu'il y a cette foi réelle qui t'a sauvé. Donc les œuvres sont, s'il y a une foi réelle, elles sont automatiques. On ne peut pas avoir un soleil sans des rayons qui réchauffent. Et on ne peut pas avoir une foi sans des œuvres qui font du bien autour de nous. Et c'est qu'une contradiction apparente, et on est d'accord que si, c'est ce qu'il dit, hein, si vous dites j'ai la foi mais vous n'aidez pas votre prochain, en fait, vous n'avez rien compris au message, vous n'avez pas la vraie foi, la foi qui sauve, c'est une foi qui fait du bien, c'est une foi qui fait confiance à Dieu pour aider les autres. Et au début, il avait aussi un encouragement, c'était toujours dans cette période donc, de dispersion, de persécution des premiers chrétiens. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfait et accompli et qu'il ne vous manque rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Ça, c'est fort de dire, considérer comme un sujet de joie les épreuves qu'on rencontre. Comment est-ce qu'on peut faire ça sans être masochiste ou dérangé mentalement? D'après se réjouit pas vraiment des épreuves, mais des conséquences des épreuves. Parce que les épreuves vont nous faire grandir, vont donner de la patience, on va grandir dans la vie chrétienne, Donc c'est une façon de voir, c'est pas une question de se réjouir à cause des épreuves, dire chouette, je suis. Et c'est de savoir que ces épreuves, elles nous purifient, elles nous font grandir, elles nous font nous rapprocher de l'image de Christ. Et donc il y a ces thèmes, et il y a beaucoup de... Un peu comme dans le livre des Proverbes, ça touche à beaucoup de sujets. Là, si on regarde les grands titres, « Mise en pratique de la parole, le respect dû aux pauvres, la foi et les œuvres ». Les précautions dans la parole, notre langue, qui est un petit membre mais qui peut mettre le feu à une forêt, qui est comme le gouvernail d'un navire qui le dirige. La même langue qui peut dire des choses qui encouragent et qui peut dire des choses qui font très mal. Ça ne devrait pas se passer entre nous. Une source ne doit pas faire jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère. La sagesse d'en haut, si on a besoin de sagesse, on peut demander à Dieu, il nous donne cette sagesse qui est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits. Il nous met en garde aussi contre les passions, les luttes, les querelles, parce qu'on veut ce qu'on n'a pas. Verset 3, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de dépenser tout pour vos passions. Il nous met en garde contre l'amitié avec le monde, l'amour du monde. Celui qui veut être l'ami du monde se rend ennemi de Dieu. Il nous met en garde contre l'orgueil. Il nous dit de nous approcher de Dieu qui s'approche de nous. Verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il nous met en garde contre les projets que l'on fait sans mettre dans l'équation Dieu. Il nous rappelle qu'on est la brièveté de la vie. Verset 14, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Verset 17, ça c'est aussi plein de petites vérités très, très, très condensées. Ça, c'est un verset. Des fois, on se dit, bon, moi, j'ai pas fait de mal, mais si on peut faire du bien et qu'on ne le fait pas, c'est un péché. Si on a, et ça, combien de fois on pourrait aider quelqu'un et on ne le fait pas parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est égoïste, etc. C'est un péché. Il met en garde l'appât des richesses. Un verset qui m'a toujours encouragé, c'est le verset 5, chapitre 5, verset 7. « Prenez donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Vous aussi, prenez patience, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Et cette image du laboureur dans le travail d'implantation d'église, des fois on peut se décourager, souvent on peut se décourager que les choses n'avancent pas vite, qu'il n'y a pas de fruits évidents. Mais là c'est un appel à la patience et à attendre et à faire confiance à Dieu. L'importance de la prière, verset 13. Du chapitre 5, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade, le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Là encore, on peut dire, bon, mais moi je ne suis pas juste, donc mes prières ne vont pas servir à grand chose, mais c'est un mensonge, parce que si vous avez accepté Christ dans votre vie, vous êtes juste, déclaré juste. Et donc vos prières ferventes, la prière agissante, fervente, a une grande efficacité. Et il donne encore un exemple d'Élie qui avait prié, qui était pourtant un homme comme nous. Et il avait pu arrêter la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Alors je ne sais pas qui c'est qui prie pour le temps en ce moment à Nice, mais ça varie beaucoup. Donc cette épître de Jacques est loin d'être une épître de paille. C'est une grande lettre à étudier, à mémoriser même certains passages. On va passer aux épîtres de Pierre. Il y a donc 2 lettres qui sont inspirées et rapportées dans la Bible. Là aussi, c'est dans le contexte des persécutions. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion, et là il cite différentes régions de l'Asie mineure, élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Le thème, c'est en fait l'espérance dans la souffrance. Là aussi, il s'adresse à des gens donc, qui souffrent, la persécution, qui sont obligés de quitter, de fuir. Et il veut les encourager. Il parle de leur foi qui est éprouvée, mais qui est précieuse comme de l'or, plus précieuse que de l'or périssable. Ça, c'est le chapitre 1, verset 7.
Jacques, un petit peu.
Voilà, tout à fait. Et on va voir qu'il y a, il y a les mêmes... toutes ces lettres se rejoignent dans le sens où il y a cette persécution, et ils écrivent pour encourager les chrétiens de ne pas baisser les bras. Et aussi la mise en garde, on le verra dans d'autres lettres, des fausses doctrines. Parce qu'il y avait toujours, au début de la chrétienté, il y avait pas mal de fausses doctrines qui, justement, pouvaient tenter les gens qui étaient découragés par les épreuves. Ce qui est remarquable, c'est qu'en fait, nous aussi, on a besoin d'être encouragés dans notre foi, parce qu'on peut être persécuté, peut-être pas physiquement ou dangereusement pour l'instant. Mais c'est vrai qu'on est une minorité. Si on dit qu'on le dimanche on va à l'église, les gens disent ouh là, un peu bizarre là, une secte ou quelque chose. Et donc on a besoin d'être encouragé dans notre foi, de dire que c'est mieux d'aller jouer au tiercé, ou que on ne doit pas se décourager, et aussi d'être mis en garde contre les fausses doctrines qui pullulent toujours comme elles ont toujours pullulé. Il y a toujours des mensonges qui veulent nous détourner de la vérité. Donc ça s'adresse à des juifs. Il parle souvent de l'Ancien Testament, parce qu'il sait qu'ils savent de quoi il s'agit. Il parle des pierres vivantes. Il nous dit que nous sommes comme des pierres vivantes pour édifier une maison spirituelle. Verset 5 du chapitre 2. Il nous donne des règles de conduite parmi les païens à l'égard des autorités et des maîtres. Il parle aussi du mariage. On l'a cité dimanche dernier. Vous de même, soyez soumis chacune à votre mari, afin que même si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Chapitre 3. En voyant votre conduite pure et respectueuse, n'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteaux élégants, mais la parure cachée du cœur. Il parle des devoirs entre frères. Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité, ça, chapitre 3, verset 8. Et cette même pensée, il nous dit aussi au chapitre 4. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Il invite donc à la sainteté, et donc aussi à partir du chapitre 3 à cette espérance dans les souffrances. Il reprend il y a des thèmes qui sont repris. Dieu résiste aux orgueilleux, mais donne sa grâce aux humbles. Au chapitre 5, verset 5, ça rejoint Jacques, qui disait exactement la même chose. Dieu résiste aux orgueilleux, mais donne sa grâce aux humbles, au chapitre 4. Certains pensent que cette lettre a été écrite, l'élu qui est à Babylone vous salue, ça c'est à la fin. De même que mon fils Marc. Certains pensaient que peut-être Babylone était un nom de code pour la ville de Rome, mais certains auteurs font remarquer qu'en fait, lorsqu'il y avait eu l'exil de Juda, de Jérusalem, des habitants de Jérusalem, des deux tribus du sud vers Babylone, il y avait eu beaucoup de juifs qui étaient restés là, et donc il y avait une grande présence juive à Babylone. Il y a un Talmud, c'est-à-dire un commentaire sur la Torah, qui est le Talmud babylonien. Donc il est logique qu'en fait, que ce ne serait pas surprenant qu'en fait Paul soit passé par Babylone, et qu'il fasse référence à l'élu à l'église de Babylone. Paix à vous tous qui êtes en Christ. Ça, c'est la première épître. La deuxième épître, elle porte toujours sur les derniers temps. Elle porte sur les derniers temps et elle invite au besoin de grandir. Et il y a une logique qui est intéressante là. On peut lire, il parle de Jésus au chapitre 1 de la deuxième lettre de Pierre, page 266, verset 3, il dit: sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. On a déjà tout ce qu'il faut pour vivre la vie de chrétien. Certains veulent nous annoncer des nouvelles choses qui vont nous permettre d'aller plus loin dans la foi, des nouveaux miracles, des nouvelles prophéties. Tout a déjà été donné. Pareil, verset 4, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. C'est tout un programme. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas est un aveugle et les yeux fermés, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Donc une invitation à des efforts de notre part pour vivre la vie chrétienne, même si on sait que c'est par la grâce, on a notre part de responsabilité. Et j'aime bien le verset 8 qui dit: si vous avez vraiment ces qualités et que vous faites vos efforts, vous n'allez pas vous ennuyer. Vous n'allez pas rester sans activité, et ni sans fruits. Vous pourrez faire des activités, mais la promesse aussi que si on laisse ces choses grandir en nous, si on fait tout pour que ça grandisse en nous, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu de la connaissance, la maîtrise de soi. Donc c'est une invitation à nos efforts. Même si on sait que le salut, c'est la grâce de Dieu, c'est pas nous qui le méritons, mais il y a toujours un équilibre dans la parole de Dieu. On aimerait croire des fois que c'est tout dépend de moi, des fois tout dépend de Dieu. C'est vrai qu'en fin de compte, tout dépend de Dieu, mais il nous invite à participer à cette vie chrétienne en pratiquant ses qualités, ses vertus. Il met en garde contre les hérésies, au chapitre 2, les faux docteurs, il est dit. On verra que Jude va faire la même chose. Et puis, il parle d'un sujet qui est souvent mentionné dans le Nouveau Testament, c'est l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire la venue du Seigneur. Le deuxième Jésus-Christ, deux points, le retour. Hein, c'est un peu comme un séquel, il est venu pour l'incarnation, il va revenir. Et en fait, c'est un thème qui imprègne complètement le Nouveau Testament, au point que, je ne l'ai pas fait, mais on dit qu'un verset sur 25 dans le Nouveau Testament parle du retour de Christ. Au revoir. 1 sur 25, c'est énorme. Et alors ça revient sous différentes expressions: l'avènement, le retour, la venue du Christ, l'attente, mais ça doit être une source de réconfort de savoir que quelles que soient les difficultés, le Seigneur va revenir. Et il y a un raisonnement très intéressant aussi dans ce chapitre 3. Il dit: dans les derniers temps, il y a des moqueurs qui vont venir en disant: où est-ce qu'il est votre Christ qui doit revenir depuis que les patriarches sont morts? rien n'a changé. Et on voit toujours pas, vous croyez que Christ va revenir, mais vos ancêtres, Pascal croyait ça, etc. C'est ridicule. Et il a un raisonnement un peu surprenant. Verset 5, en effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau, est formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu. Que par les mêmes causes, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre actuels sont gardés en réserve pour le feu en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Et donc, il rappelle qu'en fait, c'est la théorie que les choses restent uniformes, que rien ne change vraiment. Il dit, ils oublient qu'au départ, il y a eu une inondation catastrophique, le déluge, qui a transformé la surface de la terre. Et ça rejoint les découvertes géologiques modernes qui s'accommodent très bien, qui s'expliquent très bien par un déluge de proportions cataclysmiques telles qu'il est décrit dans la Bible. Et ils oublient que par les mêmes causes, le monde d'alors a péri submergé par l'eau. Et il dit qu'en fait, verset 8, il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Et donc cette idée que pour nous, ça nous paraît comme des siècles, que rien ne s'est passé, que le Seigneur n'est pas encore revenu, mais il nous dit que Dieu est en dehors du temps et que pour lui, un jour ou 1000 ans, ça ne fait pas de différence. Et sa promesse est sûre, elle va arriver. Et c'est pas du laxisme, ou c'est pas qu'il a oublié qu'il avait fait des promesses, c'est le temps de sa patience. Il veut que chacun vienne à la repentance. Mais un jour, comme on a vu l'arche de Noé se fermer et le déluge arriver, un jour il sera plus possible de venir à lui et l'épreuve arrivera. Attendez, verset 12, et hâtez l'avènement du jour de Dieu où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Considérez, 15, que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets et où se retrouvent des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre perdition. Ça, c'est intéressant. C'est Pierre qui parle de son ami Paul en disant qu'il est, des fois, il est pas facile à comprendre, que les gens le comprennent mal, mais j'aime bien l'expression « notre bien-aimé frère Paul ». C'est touchant de voir ça de la part de Pierre, qui était l'apôtre principal au départ, et puis petit à petit, c'est Paul qui a pris dans le livre des Actes la prééminence comme étant le grand apôtre. Et il y a cette expression « attendre et hâter l'avènement du jour de Dieu », ce qui donne à penser qu'on pourrait faire arriver plus vite le jour du retour de Dieu. Il y a des passages qui disent qu'on doit avoir soif de son retour dans 2 Timothée. On peut prier pour son retour, Apocalypse. Mais aussi dans Romains 11, 25, on avait vu qu'il y avait le temps. Romains 11, 25, c'était le dernier païen à venir à Christ. Et qu'après, ça allait déclencher ce qu'on appelle la totalité des païens. Ou en anglais, the fullness of the Gentiles, c'est-à-dire que à un moment donné, il y a la dernière personne païenne, non juive, qui va se convertir et ça va être un déclenchement. Alors, hâter l'avènement, certaines missions ont l'idée de faire d'évangélisation, de partager la Bible, l'Évangile. Ça va peut-être hâter l'avènement du Seigneur. Je crois que c'est vrai qu'on on doit toujours chercher à gagner des âmes, à expliquer les raisons de notre foi. C'est ce que Pierre nous disait dans 1 Pierre 3,15, d'être toujours prêt à donner une raison pour notre espérance en Christ. Donc, il a parlé au début aussi l'inspiration de la parole. La parole du Seigneur demeure éternellement. Ça, ce sont les deux lettres de Pierre. On va passer rapidement aux trois lettres de Jean. On pense que ces lettres ont été écrites avant l'an 95, parce qu'il y a eu une grande persécution par l'empereur Domitien, dont il n'est pas encore question dans ces lettres. Et Jean, c'est le Jean de l'Évangile, c'est le Jean de l'Apocalypse. Celui qui avait laissé ses filets au bord du lac de Galilée pour suivre Jésus-Christ. On pense qu'il a écrit son évangile et ses trois lettres depuis la ville d'Éphèse. Il envoie cette lettre, se pose en témoin personnel de Jésus. On va juste lire ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or notre communion est avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ. Ceci nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. Il écrit parce qu'il a connu Jésus et il veut partager pour notre joie. Il veut révéler. Il écrit à trois catégories de chrétiens. Les nouveau-nés, il les appelle petits-enfants. Au chapitre 2, il parle aussi des jeunes gens, c'est des croyants qui sont en pleine croissance spirituelle. Et puis les pères qui ont déjà eu une postérité en Christ, qui ont déjà conduit d'autres personnes à la foi. Et son thème, c'est l'amour de Christ, l'amour de Dieu. Dieu est amour. C'est ici que verset 8 notamment, Dieu est amour. Et l'invitation à marcher dans la lumière. Dieu est lumière, Dieu est amour, et nous sommes invités à marcher dans l'amour et dans la lumière. Il y a ces merveilleuses promesses que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Et nous avons tous péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, sa parole n'est pas en nous. Il met en garde contre les fausses doctrines. Jeunes enfants, verset 18 du chapitre 2, il parle des antéchrists. Vous avez entendu qu'un antéchrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Le mot antéchrist, souvent on pense que c'est en opposition directe avec Christ. En fait, en grec, ça veut dire quelque chose qui remplace le vrai Christ. C'est quelque chose qui remplace le vrai Dieu. Un verset important, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Plus loin, il dira, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Ça, c'est chapitre 3, verset 1. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur, est pur. C'est une merveilleuse promesse que le voir, ça va nous transformer. On le verra tel qu'il est. Et Dieu nous aime, nous sommes des bien-aimés de Dieu. Il nous appelle ses enfants, les enfants de Dieu. Il est dit aussi que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est 1 Jean 3, 8. C'est important de savoir que Jésus est venu pour rétablir les choses. On sait qu'il va devoir revenir pour finalement tout mettre en ordre. Un verset clé, 1 Jean 3, 18. « Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. » Ça aussi, c'est un avertissement important de ne pas se gargariser de paroles, mais de faire des actions en accord avec cette vérité. Il met en garde aussi contre les fausses doctrines, les faux docteurs au chapitre 4. C'est fou combien c'était déjà une menace. Et il nous donne à la fin, au verset 4 et 5, verset 4, l'ordre de nous aimer les uns les autres. Nous, bien aimés, verset 7, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien aimé, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Donc une formidable hymne à l'amour. Verset 1 du chapitre 5, quiconque croit que Jésus le Christ est né de Dieu, quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. On doit avoir de l'amour pour nos frères chrétiens. À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, quand nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est intéressant quand il y a des... peut-être... Au bout d'un moment, il y a des passages qu'on connaît dans la Bible, mais on ne sait plus où c'est. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ça, c'est un des passages qui le dit. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi, encore une fois, sans jeu de mots, parle de la Trinité, le Père, la Parole et le Père, la Parole et l'Esprit Saint. Ces trois sont un. La Parole, c'est l'expression qu'il utilise dans son évangile pour parler de Jésus. Une merveilleuse promesse, voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose, ça c'est chapitre 4, dernier chapitre, verset 14. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute, et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Promesse que si nous faisons quelque chose selon sa volonté, il est prêt à exaucer nos prières. Selon sa volonté. Verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Ça, c'est dans la Bible qui explique pourquoi il y a des katas dans le monde, pourquoi il y a des problèmes, pourquoi il y a du péché encore. Pour l'instant, il est au pouvoir du malin. Puis il termine, petits enfants, gardez-vous des idoles. Tout ce qui n'est pas la vraie foi. La seconde épître de Jean, c'est la seconde et la troisième épître de Jean, l'épître de Jude, sont trois des livres des cinq livres de la Bible qui n'ont qu'un chapitre, un seul chapitre. L'autre, c'est le prophète Abdias, Obadiah dans l'Ancien Testament, et il y a aussi la lettre de Paul à Philémon. Cette deuxième lettre à Jean, elle est adressée au chapitre 1, il est écrit « L'ancien à Kyria, l'élu, et à ses enfants que j'aime dans la vérité, non pas seulement moi seulement, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Et la grande question, c'est qui est cette Kyria qui est l'élu et à ses enfants? Et la plupart des commentateurs pensent qu'il s'agit peut-être d'une église et un mot de code, ou qu'à l'époque ils savaient qui c'était, ou c'était peut-être une personne influente dans une église. Mais j'aime bien ce que dit Chuck Missler, qui en fait a fait un genre d'étude de la Bible en 24 heures, dont je m'inspire, qui dit qu'en fait... quelle était la personne qui a été la plus élue, en fait, dans l'histoire de la Bible? Personne qui a été choisie de façon toute particulière. Une dame. La Vierge Marie. Et il dit qu'en fait, il est très possible, ces gens à qui... Jésus avait confié sa maman, que cette lettre, elle soit, et c'est pas dans les commentaires, généralement, on parle toujours d'une église ou d'une personne influente, mais si on pense que c'est Marie et ses enfants, elle avait d'autres enfants, ça pourrait très bien marcher. Il est dit de ne pas recevoir. Souvent on utilise le verset 10 pour dire qu'il ne faut pas recevoir les témoins de Jéhovah ou les mormons chez soi. Si quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu, si quelqu'un vient à vous, verset 10, et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas salut. Et c'est sûr que si Marie jouissait sans doute d'une respectabilité, d'une autorité, et si quelqu'un était venu chez elle, c'était cautionné d'une fausse doctrine. À la fin, il y a aussi les enfants de ta sœur, l'élu te salue. On sait que Jésus avait une sœur, elle était avec elle au pied de la croix. Donc c'est ici, votre salut ne dépend pas de l'identité de cette personne, mais j'ai trouvé intéressant de cette possibilité. Et ce que disait cet auteur, c'est qu'en fait, on nous dit d'être hospitalier. On a vu dans Hébreux 13, soyez hospitalier, ouvrez votre porte. Et puis là, on dit surtout n'ouvrez pas. Alors c'est possible que ce soit parce qu'on sait à l'avance que ce sont des faux docteurs, mais c'est peut-être aussi parce que cette lettre, elle avait une destination toute particulière. Je ne crois pas qu'on aura une réponse de ce côté de l'éternité, comme on dit, mais je voulais vous partager cette idée. La troisième lettre, c'est une petite lettre destinée à un certain Gaius, probablement le responsable d'une église qui était proche de la région d'Éphèse. Et le thème, c'est de marcher dans la vérité. Le verset 4, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre dire de mes enfants qu'ils marchent dans la vérité. » Et c'est vraiment le cœur d'un pasteur de dire ça. C'est pasteur Chuck Smith qui est à l'origine du mouvement Calvary Chapel. C'est son verset favori, de pouvoir dire à tous les gens qu'il a entraînés ou qu'il a formés, Il n'a pas de plus grande joie de savoir que les enfants marchent dans la vérité. Et puis finalement, l'épître de Jude, la dernière qu'on va voir ce soir. Là aussi, un seul chapitre. Et là, il l'adresse à ceux qui sont appelés, aimés en Dieu, le Père est gardé pour Jésus-Christ. Là, il nous est l'invitation, l'exhortation, c'est à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Encore une fois pour toutes. La foi du chrétien, c'est pas, on n'attend pas la dernière nouveauté de quelque gourou que ce soit, de quelque nouvelle révélation, de quelque nouveau style. L'ensemble de la doctrine chrétienne, toute la doctrine chrétienne a été révélée, transmise au sein. C'est-à-dire à tous les croyants. Et il avertit donc qu'il y a des gens qui veulent qui veulent déformer la vérité, s'est glissé parmi vous, etc. Et donc c'est un passage qui fait allusion à pas mal de, en quelques lignes, à pas mal de choses de l'Ancien Testament. C'est très intéressant à étudier. Il parle d'une prophétie d'Enoch, le septième patriarche depuis Adam, on avait parlé dans la Genèse 5, et lui déjà parlait du retour de Christ, le Seigneur, voici que le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer le jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, de toutes les paroles dures qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. On ne sait pas d'où il savait, d'où Jude tenait cette source, que Enoch avait fait cette prophétie, mais c'était déjà quelque chose de connu à l'époque. Et donc Enoch, le prophète, le patriarche dans la Genèse 5, avait déjà prévu le retour de Christ avec ses saintes myriades, c'est-à-dire des dizaines de milliers d'anges pour exercer le jugement. C'est le retour de Christ dont il est question ici. Il rappelle les prophéties de Jésus qui disait à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui marchent dans l'impiété selon leur convoitise. Ça rappelle ce que disait Pierre en parlant des moqueurs qui disaient, mais où est-ce qu'il est, votre Christ? On ne l'a toujours pas vu. Verset 20 et 21, mais vous bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priez par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ayez pitié les uns de ceux qui doutent. Sauvez-les en les arrachant au feu. Là aussi, on voit notre responsabilité. Édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. C'est-à-dire qu'on a, la foi, c'est-à-dire les éléments de croyance et les vérités à révéler. Mais on doit encore faire un effort pour bâtir quelque chose avec cette foi, avec ses principes, ses vérités, ses préceptes. Pour construire quelque chose de solide, on doit prier par le Saint-Esprit. Et puis, j'aime beaucoup cette expression « maintenez-vous dans l'amour de Dieu ». Comme quoi, on a une responsabilité de rester au sein de son amour. Et moi, j'ai toujours eu cette image, à propos de ce verset, d'une bonne douche bien bien chaude, pas trop chaude mais bien chaude, qui fait du bien, et on peut choisir d'être à côté, on peut choisir d'y être et puis en sortir et puis se geler, grelotter, ou alors on peut bien se caler et rester dans cette bonne douche et en retirer tout le bénéfice, toute la joie, tout le réconfort. Et pour moi, ce fait qu'il dit « maintenez-vous dans l'amour de Dieu », c'est qu'on a une part de responsabilité pour être au bénéfice de cet amour qui nous fait du bien, qui nous encourage, qui nous réchauffe, qui nous donne la vie. Et on peut tous penser à comment on peut se maintenir dans cet amour, en évitant le péché, en évitant de s'éloigner de sa parole, en s'éloignant de la communion fraternelle, en s'éloignant de Dieu. On va s'éloigner de son amour, mais ce Dieu, il est celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire irréprochable dans l'allégresse. Ça, c'est le verset 24. Ça, c'est encourageant aussi de savoir que on n'est pas tout seul pour toujours cet équilibre. On a une responsabilité, mais on peut faire confiance à Dieu si on a vraiment ce désir qui va nous aider à rester bien dans la douche sans faire des chutes. Et un jour on pourra être devant sa gloire irréprochable dans l'allégresse. Et puis il termine en apothéose à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et autorité dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Voilà, on va s'arrêter avec celle-là. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Donc là, on voit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressemblances entre Pierre et Jude, par exemple, parce que c'était écrit à la même époque. Les lettres circulaient, ils les lisaient dans les églises, ils avaient connaissance de thèmes qui avaient été abordés. Il y a vraiment une unité de vision de tous les apôtres, de tous les auteurs de l'époque, inspirés bien sûr par un seul Esprit Saint, donc c'est pas étonnant. Alors, est-ce qu'on a fini avec les épîtres ? On a fini avec le terme des épîtres, mais en fait, Jésus a écrit 7 lettres dans l'Apocalypse. Il y a les lettres aux églises de l'Apocalypse, mais c'est vrai que le terme épître, c'est... On a terminé les épîtres de Paul et de Hébreu, Jacques, Pierre, Jean et Jude. Voilà, donc la semaine prochaine, on parlera des choses des derniers temps, de la tribulation, qu'est-ce que c'est qu'être pré-tribulation, post-tribulation, le millénium. Est-ce que l'Église passera par la grande tribulation ou non ? On va essayer de toucher ces sujets.
Ouais. Oui, oui. Dans le deuxième épître de Pierre, il y a marqué que si on laisse ces choses grandir en nous, nous ne serons pas oisifs. Mais oisifs, dans quel sens ?
Je pense que ça veut dire qu'on aura plein d'occasions de faire du bien autour de nous, de servir les autres. C'est comme ça que je première façon de lire la chose. Quoi. C'est merveilleux quand tu veux te donner vraiment pour les autres. C'est pas les opportunités qui manquent quoi. Demain ils vont faire la même. Après-demain, ils vont manifester pour avoir du travail, quoi, mais pour le chrétien engagé, le travail ne manque pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de travail rémunéré, mais...